France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Plus de 16% des enfants de primeurs sont des victimes probables de harcèlement scolaire. C'est l'un des enseignements d'une grande enquête publiée par Santé publique France. Elle montre que les élèves harcelés peuvent aussi être des élèves harceleurs. Des chiffres, des profils, des préconisations pour tenter de mieux comprendre et donc de mieux lutter contre ce phénomène qui vire parfois au drame. Qu'y a-t-il dans ce deal qui a soudainement adouci Donald Trump sur le Groenland? On va revenir sur ce projet d'accord, sur le rôle crucial joué par le chef de l'OTAN qui a mis la flatterie au service de la diplomatie. Et puis sur ce Conseil de la paix. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour.
Que le président américain vient de présenter officiellement au forum de Davos où vous vous trouvez.
L'institution, oui, la potentiellement la plus influente de l'histoire du monde. Voilà l'ambition annoncée ce matin par Donald Trump.
Et on vous retrouvera sur place tout à l'heure. On ira aussi à Quimperlé dans le Finistère sous l'eau. Des habitants du centre-ville ont dû être évacués en raison de la crue. À Nice, sous la piste d'un règlement de compte intrafamilial et privilégié après la mort d'une jeune femme, tuée par balle alors qu'elle se trouvait en voiture avec son bébé, et puis à Limoges, où l'on peut visiter une fausse cellule de prison. C'est une association qui veut ainsi sensibiliser l'opinion publique aux conditions d'incarcération.
Le fois, par exemple, j'ai un gamin qui monte dans cette cellule, mais il me dit, mais moi je croyais qu'il y avait tout le confort dedans. Quand j'entends un ministre dire à la télé, ouais, la prison c'est le Club Med, je me dis, mais quel message on envoie à ces adolescents? Comment tu veux qu'ils aient peur de la prison? Tu leur dis que c'est le Club Med.
Reportage à suivre. Il faut un grand plan piscine en France pour rénover des structures vieillissantes et pour permettre à tous les enfants d'apprendre à nager. C'est l'appel lancé par le champion Alain Bernard et par le sénateur Michel Savin. Ils seront tous les deux nos invités à 13h30 et j'attends bien sûr vos questions, vos témoignages. C'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Comment mieux lutter contre le harcèlement scolaire? Comment mieux repérer, prendre en charge, accompagner les victimes, mais aussi les enfants qui en sont à l'origine? Ce ne sont pas des questions nouvelles, mais elles se sont à nouveau posées avec force ces derniers jours après le suicide de lycéennes à Saint-Nazaire et à Mitry-Mory. Sur fond de soupçons de harcèlement, des enquêtes ont été ouvertes pour comprendre les circonstances de leur décès. Alors pour tenter de mettre des chiffres sur cette problématique, Santé publique France publie aujourd'hui les résultats d'une enquête éclairante. Bonjour Laurélie Carrive.
Bonjour.
Cette enquête qui confirme que le harcèlement commence de plus en plus tôt. En l'occurrence, on s'intéresse, Laurélie, aux élèves de 6 à 11 ans, autrement dit du CP au CM2.
Oui, pour le mesurer, cette vaste enquête s'est intéressée à 8200 élèves en interrogeant à la fois leurs parents et leurs enseignants. Il en ressort que 16% des enfants sont des victimes probables de harcèlement, 18% ont des comportements agressifs et 6% sont les deux à la fois victimes probables et auteurs. Globalement, les filles sont plus souvent victimes, tandis que les comportements agressifs sont plus marqués chez les garçons, même si ça diminue au fil de la scolarité.
Alors, quels sont globalement, Laurélie, les profils qui se dégagent?
Les enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers, handicap, difficultés d'apprentissage, représentent un tiers des victimes et 43% de ceux qui sont à la fois victimes et auteurs. Les enfants nés prématurés ou nés en fin d'année, ceux qui sont en surpoids, ont plus de risques d'être harcelés. Ceux qui ont été dans le passé victimes de violence de la part d'adultes sont plus nombreux du côté des agresseurs. Alors attention, les auteurs de l'étude insistent beaucoup là-dessus. Il n'y a pas de lien de cause à effet ni de déterminisme. Tout dépend évidemment du contexte dans lequel l'enfant évolue. Un lien est aussi fait avec la santé mentale de ces élèves qui est plus dégradée que chez l'ensemble des enfants. Hyperactivité, opposition, troubles de l'attention. Enfin, un dernier point peut-être à relever, la cantine et le périscolaire ne sont pas associés à un risque plus fort de harcèlement.
Alors voilà pour le constat. Quels sont maintenant les pistes, les recommandations?
Développer l'empathie. Des ateliers sont proposés aujourd'hui dans les écoles maternelles et primaires. Travailler aussi sur ce qu'on appelle la résolution de problèmes, savoir en parler et demander de l'aide à un adulte. On rappelle enfin le numéro gratuit et anonyme, le 3018 pour les enfants victimes de harcèlement et pour leurs familles.
Précision importante. Merci Laurélie Carrive, spécialiste éducation à la rédaction de France Inter. Une grande table installée à la tribune avec des banderoles, Board of Peace, des fleurs blanches, sans doute pour symboliser l'harmonie, et puis des dirigeants qui viennent les uns après les autres s'asseoir aux côtés de Donald Trump pour apposer leur signature. Voilà pour le décor de la cérémonie organisée tout à l'heure au forum de Davos, où le président américain présentait officiellement la charte fondatrice de son Conseil de paix. Frédéric Saïs, on vous retrouve sur place. Conseil qui devait initialement superviser le cessez-le-feu à Gaza, mais qui s'est peu à peu élargi. L'ambition est désormais mondiale.
Ambition mondiale et même historique, à en croire Donald Trump.
Ce Conseil de la paix peut devenir l'organe le plus influent jamais créé. Presque tous les pays veulent en faire partie. Tous ceux qui sont sur cette scène sont des amis. Laissez-moi regarder. Oui, je les aime tous. Il y a quelques dirigeants que je n'aime pas, mais ils ne sont pas ici.
Alors, sur scène, justement, qui sont les amis de Donald Trump qui ont répondu présent? 19 dirigeants, 18 hommes, une seule femme, sont représentés le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Il y a aussi le président argentin, Javier Milei, un très proche de Donald Trump, les représentants de la Turquie, du Maroc, également les premiers ministres bulgares et hongrois, le hongrois Viktor Orban. Ce sont les deux seuls dirigeants européens, les autres ont décliné plus ou moins ouvertement. Israël n'est pas représenté non plus, pas plus que les Ukrainiens ni les Russes, tous ont pourtant été invités. Qu'importe, Donald Trump promet des résultats rapides, en particulier à Gaza.
Nous nous engageons à faire en sorte que Gaza soit démilitarisée, correctement gouvernée et magnifiquement reconstruite. Nous allons obtenir d'excellents résultats à Gaza.
Mais au-delà de Gaza, le Conseil de la paix vise à intervenir, je cite, « partout où il existe des conflits dans le monde ». Derrière Donald Trump, le logo de cette nouvelle institution, il représente un bouclier. À l'intérieur, on voit l'Amérique du Nord, couleur dorée, le tout entouré par deux branches d'olivier, elles aussi dorées. Les branches d'olivier qui rappellent le logo de l'ONU. Mais à la tribune, Donald Trump l'assure, son Conseil de la paix n'est pas concurrent. Il promet de travailler conjointement avec les Nations Unies.
Merci Frédéric Saïs, en direct du forum de Davos. On parlait avec vous des présents. Mais c'est intéressant aussi de faire la liste des absents. La France a refusé de faire partie de ce Conseil de paix comme le Royaume-Uni. Et puis c'est non aussi du côté de l'Italie. Et ça, c'était moins évident puisque Giorgia Meloni se vante de sa proximité avec Donald Trump. Elle a refusé pour des raisons constitutionnelles car l'Italie ne peut pas adhérer à un organisme où elle ne se trouverait pas à égalité avec d'autres partenaires. Alors hier soir à la télévision, vision italienne, la première ministre a pris soin de ne pas rompre le fil avec la Maison Blanche.
Nous sommes ouverts, disponibles et intéressés. Ce ne serait pas intelligent de la part de l'Italie et de l'Europe de s'exclure par principe d'un organisme qui est intéressant. Il y a un problème constitutionnel qui ne nous permet pas de signer tout de suite, mais je garde une position d'ouverture.
Ma la mia posizione rimane sicuramente una posizione di apertura.
Non credo che. Je ne crois pas qu'un organisme de ce type puisse remplacer l'ONU. Quant à la présence de Poutine, écoutez, je vous rappelle que dans n'importe quelle instance multilatérale, on s'assoit à côté de personnes dont on ne partage pas les positions.
Giorgia Meloni à propos donc de ce Conseil de paix fondé par le président américain Donald Trump qui a habitué ses interlocuteurs au changement de ton, au changement de plan. Et en voici un nouvel exemple sur le dossier du Groenland après des semaines de déclarations agressives. Encore hier après-midi à la tribune de Davos, le président américain a subitement annoncé avoir, je cite, conçu le cadre d'un futur accord après une réunion très productive avec le chef de l'OTAN. On va dans un instant tenter de comprendre le rôle que ce dernier a pu jouer. Mais voyons d'abord le contenu. Bonjour Éric Biégalin.
Bonjour Céline.
Alors que sait-on de ce projet d'accord?
Eh bien pour le moment, pas grand-chose à vrai dire. Hier soir, la presse américaine suggérait que le Danemark pourrait céder sa souveraineté sur quelques territoires groenlandais où les Américains seraient libres d'installer des bases militaires. Ce matin, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, évoquait lui tout autre chose. Une sécurisation par les pays de l'OTAN de la zone arctique occidentale de manière à ce que les Chinois ou les Russes n'y pénètrent pas. Autre objectif de ces pourparlers avec le président américain hier, a précisé Mark Rutte, s'assurer que la Russie et la Chine ne puissent pas avoir accès aux ressources groenlandaises. Alors, deux sources danoises et britanniques, lesquelles se sont coordonnées avec le secrétaire général de l'OTAN, ont précisé ce matin qu'une mission permanente de l'OTAN, baptisée Arctic Sentry, a bien été proposée pour patrouiller toute la zone en permanence, en mer, dans les airs et sur terre. Quant à interdire l'accès aux ressources groenlandaises pour les Russes ou les Chinois, cela passera sans doute par la dénonciation d'une unique concession minière au Groenland, accordée à un consortium australien, nanti d'une participation chinoise minimale, mais réelle.
Merci Éric Biégala, spécialiste défense. Et puis l'autre question, une fois qu'on a parlé avec vous du contenu, c'est de savoir pourquoi Donald Trump a soudainement changé de position. Après avoir balayé d'un revers de main les arguments des Européens, notre fermeté a commencé à convaincre le président américain, veut croire le ministre de l'économie, Roland Lescure. Mais ce que beaucoup retiennent aujourd'hui, c'est le rôle crucial joué par le chef de l'OTAN, Mark Rutte, qui semble avoir, Fabien Cazot, fait bouger les lignes.
Ancien Premier ministre des Pays-Bas, un des pays européens les plus atlantistes par tradition diplomatique, Mark Rutte est rompu aux négociations délicates avec les États-Unis. Depuis son arrivée à la tête de l'OTAN, organisation alliée mais distincte de l'Union européenne, il a pour lui de ne pas être impliqué directement dans les conflits douaniers que Donald Trump a déclenchés depuis l'année dernière. Regroupant les États-Unis et les pays européens au sein de son organisation, il se fait fort de jouer les médiateurs, quitte à tomber parfois dans une flatterie jugée exacerbé par certains dirigeants européens. Ainsi écrivait-il à Donald Trump l'été dernier, au lendemain des frappes américaines en Iran, que son action a été décisive. « Vous accomplissez ce qu'aucun autre président américain n'a jamais accompli », poursuivait Mark Rutte. Dans un autre message qui vient d'être rendu public hier par le président américain, Mark Rutte le félicitait pour son intervention au forum de Davos. Une diplomatie de la flatterie qui semble avoir un effet sur Donald Trump, encore faudra-t-il en évaluer les résultats sur le long terme, tempère depuis hier des diplomates européens.
Et puis le gouvernement danois, merci Fabien Cazot, précise aujourd'hui que Mark Rutte ne peut pas négocier au nom du Danemark. Un dernier mot à propos de ce forum de Davos, où Donald Trump doit aussi rencontrer Volodymyr Zelensky tout à l'heure. Le président ukrainien doit également prononcer une allocution. L'émissaire de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, doit lui se rendre à Moscou et se montre très confiant. Les négociations ont beaucoup progressé, dit-il. Il ne reste plus qu'un point à régler. Fin de citation. Et puis, s'agit-il d'une loi des séries ? En Espagne, un nouvel accident de train a eu lieu. Un train de banlieue a percuté une grue. La Renfe, la compagnie espagnole, fait état de plusieurs blessés légers. Sans plus de précision pour l'instant.
France Inter, le 13-14. Céline Aslo.
Elle se trouvait au volant de sa voiture, aux côtés de son bébé de 7 mois, lorsqu'elle a été tuée par balle. Comment expliquer la mort de cette jeune femme de 24 ans hier soir à l'ouest de Nice ? Une enquête a été ouverte pour meurtre aggravé. L'enfant, lui, est sain et sauf. Caroline Saglione, vous êtes à Nice. La piste intrafamiliale est privilégiée, selon le procureur, qui a aussi donné des détails sur les circonstances du drame.
La jeune femme a été atteinte par plusieurs impacts de balles de calibre 9 mm tirés à bout portant à travers la vitre de la voiture. C'est ce que révèlent les experts en balistique. Le procureur parle d'un seul individu circulant en scooter et susceptible d'être l'auteur présumé des faits. Un deux roues retrouvé peu de temps plus tard hier soir dans le centre-ville de Nice. Son propriétaire s'est présenté dans la foulée au service de police. Il a été placé en garde à vue. Mais le parquet indique que cet homme n'est a priori pas le tireur. Même si le modus operandi fait penser à un homicide sur fond de criminalité organisée, c'est une piste intrafamiliale qui est privilégiée. Un autre homme avait été placé en garde à vue il y a quelques jours pour des violences aggravées ayant visé la mère du compagnon de la victime. Cet homme avait été placé dimanche dernier sous contrôle judiciaire. En attendant donc, les investigations dans le cadre de cette enquête pour meurtre aggravé se poursuivent.
Les précisions d'ici Azur. Des départs mais pas de licenciements. La Société Générale veut supprimer 1800 postes en France d'ici fin 2027 mais promet de s'appuyer sur des départs naturels non remplacés. Sur la mobilité interne, réseau d'agences ne sera pas concerné, précise le groupe bancaire. Et puis Ubisoft connaît une forte baisse en bourse aujourd'hui, moins 34% ce matin à la Bourse de Paris. Conséquence des annonces sur le plan de réorganisation massive du studio français de jeux vidéo. L'interdiction du voile pour les mineurs dans l'espace public, la présomption de légitime défense pour les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Voici quelques-uns des textes qui seront soumis aux députés aujourd'hui à l'initiative du parti Les Républicains. Puisque c'est aujourd'hui la niche parlementaire réservée au camp LR. Et les discussions ont commencé ce matin avec cette question. Faut-il inscrire les frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes ? Jérôme Val, vous suivez les débats, bonjour.
Bonjour.
Projet de résolution qui a donné lieu à des échanges très vifs, on pourrait même dire à la limite de l'injure.
Oui, séance très très houleuse, invective d'un bout à l'autre de l'hémicycle, des suspensions de débats, répétitions. Alors on savait le sujet inflammable, les échanges ont tourné vraiment au pugilat verbal entre les députés Rassemblement National et ceux de la France Insoumise, le RN Laurent Jacobelli.
Les frères musulmans veulent lapider les homosexuels. Eh bien, si vous voulez lapider les homosexuels, votez les filles. Vous êtes, mesdames et messieurs, les suppôts de tout ce qui se fait de pire en termes d'islamisme.
Propos inacceptables pour les élus de gauche, bureau de l'Assemblée Nationale saisi et beaucoup des échanges ont été dans cette même tonalité, le député LFI Antoine Léaumont.
Vous êtes en train de reproduire, avec la mécanique du soupçon permanent, l'idée qu'il y aurait une cinquième colonne des propos empruntés aux fascistes espagnols, avec l'idée que nous serions le parti de l'étranger, des propos empruntés aux nazis.
Et dans ce spectacle affligeant pour certains, les députés LR restent étrangement silencieux. Eux qui poussent pour inscrire les Frères musulmans sur la liste des organisations terroristes, démarche symbolique, reconnaît le parti de droite, et certainement pas une attaque contre tous les musulmans, se défend le député Jean-Louis Thiriot.
Ce texte n'est évidemment pas contre l'islam. Tous nos concitoyens musulmans qui se reconnaissent dans le drapeau français sont membres à part entière de la communauté nationale.
Démarré à 9h, les débats n'ont pas encore abouti sur ce premier texte et il en reste 9 d'ici ce soir.
Jérôme Val, service politique, et puis ambiance chaotique aussi au Sénat qui se penchait hier sur la fin de vie. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
Les sénateurs se sont opposés à la création de toute forme d'aide à mourir et ils ont voté la suppression de l'article 4, la clé de voûte de cette proposition de loi. Alors, est-ce que ça veut dire, Alice, que le texte est vidé de sa substance ?
Oui, car cet article qui vient de tomber, c'est celui qui définit les critères d'accès à l'aide à mourir. En somme, le profil des patients pouvant y prétendre. La version du Sénat était particulièrement restrictive. La gauche a donc décidé de voter contre ou s'abstenir. Mais à droite, coup de théâtre, la coalition derrière Bruno Retailleau a également préféré supprimer cet article 4. Résultat, il ne reste pas grand-chose dans la loi. Un triste soir pour le Sénat, estime Patrick Kanner, le président du groupe PS.
Il y a clairement des changements de position sur l'aile droite de cet hémicycle qui fait qu'aujourd'hui, le Sénat fait de ce texte une forme d'agonie politique. Et nous sommes en train de ridiculiser la Haute Assemblée. Je le regrette pour le Sénat, pour la démocratie.
Merci,
et surtout pour
Monsieur
l'intérêt
Président.
Des patients qui attendaient beaucoup du Sénat en matière de fin de vie.
L'écologiste Anne Souyris dénonce un sabotage, une destruction massive du texte, ce dont se défend le sénateur indépendant Emmanuel Capu.
Chacun a voté en son âme et conscience. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la démocratie soit confisquée ou que le Sénat n'ait pas fait le travail. Au contraire, la vérité c'est quoi ? C'est qu'il y a des avis extrêmement divergents dans cette Assemblée. Ça reflète les avis très divergents dans la société.
Le président de la Commission des affaires sociales, Philippe Mouiller, le concède. Le texte, aujourd'hui, n'a plus de sens. Néanmoins, son examen se poursuit au Sénat. Le texte sera débattu une seconde fois à l'Assemblée nationale à partir du 16 février.
Merci Alice Cachaner. On va maintenant prendre la direction du Palais de justice de Paris, où une nouvelle semaine d'audience vient de s'achever au procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Bonjour Charlotte Piré.
Bonjour.
On va faire le point sur cette semaine chargée. Ce matin, c'est Louis Alliot qui a été entendu, le maire de Perpignan, qui joue son mandat au cours de ce procès, mais qui assure, et c'est sa ligne de défense, qu'il n'est pas au cœur de cette affaire.
Oui, et il aime à le rappeler, hein. Il n'est jugé que pour un contrat d'assistant parlementaire, 8 mois en 2014. Mais vous n'avez fourni aucune preuve de son travail. On a un échange téléphonique, une galette des rois. Vous pensez sérieux de dire aujourd'hui qu'il a travaillé pour vous, lance l'avocat général. Alors, comme depuis le début de son court interrogatoire, le plus expéditif de tous d'ailleurs, Louis Alliot botte en touche, évoque des missions spécifiques et préfère de loin s'apesantir sur des considérations politiques. Ce Parlement européen où les députés et leurs assistants ne feront bientôt que du législatif. Louis Alliot ne concède finalement que quelques dysfonctionnements. Mais je tiens à dire que notre arrivée au Parlement européen s'est faite dans un grand désordre. Lui qui n'avait pas jugé bon d'assister à la réunion d'information des nouveaux eurodéputés parce qu'elle n'était pas obligatoire.
Mais le moment fort, Charlotte, de cette semaine d'audience a été évidemment le long interrogatoire de Marine Le Pen.
Oui, une journée et demie à la barre et une Marine Le Pen qui, si elle a adouci le ton par rapport au premier procès, n'a pas délaissé sa combativité. Il faut dire que l'exercice est presque plus ardu encore, car pour tenter d'obtenir un allègement de sa peine, seule possibilité pour lui permettre d'être candidate à la présidentielle, Marine Le Pen a choisi de lâcher du lest en reconnaissant les faits sur certains contrats, tout en niant l'idée d'un système organisé, comme l'a conclu le tribunal en première instance, et tout en plaidant la bonne foi, l'ignorance des règles ou l'absence de clarté et d'alerte du Parlement européen. Bref, même pour l'animal politique qu'est Marine Le Pen, pas simple de répondre au feu des questions de la présidente. Ses commentaires aussi du type « Madame, il y a des règlements quand même et vous êtes avocate ».
Et d'ailleurs, Charlotte, on sent au terme de cette semaine d'audience que les prévenus sont à la peine.
Oui, je le disais, c'est une ligne de crête assez ténue en défense et de plus en plus difficile à tenir au fur et à mesure que la Cour plonge dans le concret des contrats litigieux. L'eurodéputé Nicolas Bay, son ancien assistant parlementaire Timothée Oussin ou le député Julien Odoul ont ainsi peiné à la barre en début de semaine. Aujourd'hui, je comprends très bien ce qu'il m'est reproché, mais je n'en avais pas conscience à l'époque, a plaidé Nicolas Bay. Julien Odoul a parlé de négligence quand ils ne sont pas parfois restés sans voix face à certaines demandes d'explication.
Merci Charlotte Piret. En direct du palais de justice de Paris, la surpopulation carcérale peut transformer une prison en entrepôt humain. C'est le Conseil de l'Europe qui s'exprime ainsi dans un rapport consacré aux prisons françaises. Après plusieurs visites, l'institution déplore la vétusté des cellules, la violence physique entre détenus ou encore, je cite, le régime d'activité assez pauvre. Et la construction de nouvelles prisons ne peut pas être la seule solution, dit en substance ce rapport destiné à alerter les pouvoirs publics et puis aussi à sensibiliser l'opinion, comme le fait également l'association Murmure, association qui a reproduit une cellule en taille réelle, une prison mobile qui permet de se rendre compte des conditions d'incarcération. Elle était installée ces derniers jours en plein cœur de Limoges, Michael Chailloux.
Quand on entre dans cette cellule, les bruits nous saisissent autant que l'exiguïté des lieux, des bruits tournés en prison.
J'y suis resté 22 ans,
raconte Yannick Deslandes, ancien narcotrafiquant.
Et sur ces 22 ans, j'ai passé 15 ans de ma détention dans ce genre de cellule.
Au plafond, des moisissures reconstituées, un rideau à peine présent pour distinguer les toilettes du lit.
Mais pour les douches, c'est des douches communes.
Non, la prison, ce n'est pas tout confort. Cette réalité-là, Yannick Deslandes a voulu la montrer, notamment aux jeunes.
C'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer cette cellule. L'autre fois, par exemple, j'ai un gamin qui monte dans cette cellule, mais il me dit, mais moi je croyais qu'il y avait tout le confort dedans, parce que c'est ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux. Quand j'entends un ministre dire à la télé, voilà, la prison c'est le Club Med, je me dis, mais quel message on envoie à ces adolescents? Comment tu veux qu'ils aient peur de la prison? Tu leur dis que c'est le Club Med.
Liana, justement, sort de cette cellule mobile et on peut dire que c'est pas vraiment comme elle l'imaginait.
C'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, comme quoi la prison c'est sécure, et il parlait des PlayStation, des télés, comme quoi on était bien lotis finalement en prison, quoi. Mais ça vaccine un peu.
Marie-Hélène est ressortie très émue de cette cellule, elle dont le petit-fils est en prison à la maison d'arrêt de Limoges.
C'est très blessant pour moi. Et de voir ça, ça me plaît pas. Hein. C'est fait pour leur faire comprendre que c'est pas non plus l'idéal de rentrer en prison.
Et mettre en lumière aussi l'état déplorable de bon nombre de maisons d'arrêt en France, comme celle de Limoges.
Reportage Michael Chailloux, ici Limousin. De fortes pluies, des sols saturés d'eau et puis d'importants coefficients de marée, tout cela conjugué provoque des crues dans le Morbihan, le Finistère et l'Ille-et-Vilaine qui sont en vigilance orange jusqu'à demain. Ainsi à Quimperlé, l'eau est montée à plus de 4 mètres dans le centre-ville rendu inaccessible. Vous êtes sur place, bonjour Delphine Gauthier.
Bonjour.
Des habitants ont été évacués par les pompiers.
Oui, 14 personnes évacuées ce matin en bateau par les pompiers du Finistère. Elles sont relogées dans leur famille ou chez des amis. Face à moi, la rivière La Leita qui déborde, vous l'entendez peut-être, elle se déverse à gros bouillons sur le quai Briseux, 4,47 m au pic de la crue il y a une heure. Alors on est encore loin des inondations historiques de décembre 2000 avec un pic de crue à 5,80 m. Mais pourtant, l'hôtel bar Le Briseux, le bar L'Ambroisia, tous les deux sont inondés jusqu'à 1,50 m à l'intérieur. Les propriétaires, heureusement, avaient anticipé. Ils ont reçu un coup de fil de Vigicru. Le matériel a été surélevé sur des palettes. De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose, constate Corentin, les pieds dans l'eau sur la terrasse de son bar en bordure de la Leita. La nature est la plus forte, dit un peu fataliste le jeune patron. Il estime que son établissement va devoir rester fermé au moins jusqu'au mois de mars. Ce qu'il attend désormais, comme tous les habitants d'ailleurs, c'est la décrue de la basse ville de Quimperlé. Mais les prévisions ne sont pas bonnes. Beaucoup de pluie attendue encore ce soir et demain. Conjugué, vous l'avez dit, à des forts coefficients de marée. Le maire de Quimperlé évoque une situation tendue jusqu'à mardi prochain.
Merci Delphine Gauthier. Ici Brazizel en direct de Quimperlé dans le Finistère. La Réunion et la Polynésie française ont aussi été placées en vigilance orange à cause des fortes pluies qui touchent aussi la Grèce. 2 personnes ont été tuées. Et puis la Tunisie où les précipitations importantes ont causé ces derniers jours la mort de 5 personnes. En Australie, il a perdu, mais il s'est bien défendu. Le jeune Français Arthur Géa s'est incliné face au vétéran Stan Wawrinka au deuxième tour de l'Open d'Australie. Au bout de 4h33 de match très disputé, ce qui est déjà un exploit pour Arthur Géa, 21 ans et 198e joueur mondial. Et puis un peu de jazz maintenant, parce que ça fait toujours du bien. Mathieu Culeron, notre spécialiste musique, nous conseille le nouvel album du musicien Joey Homicile, d'origine canadienne et haïtienne. Il est désormais parisien d'adoption et il rend hommage à Miles Davis dans son nouveau disque.
après un album très personnel, Joey au missile décide à sa manière de rendre hommage à Miles Davis de façon très libre et avec le sourire.
Si j'étais Miles Davis, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais sorti? Puis j'ai le droit, parce que ça c'est totalement free, c'est ma vérité. Je me suis dit, je vais donner les grooves, je vais lâcher les grooves dans ma banque de données sonore là. Si Miles Davis avait un band en 2025, qu'est-ce qu'il sortirait?
Smiles est aussi pour Joey un retour à son instrument d'origine. Le saxophoniste fait en effet un clin d'œil à son passé et à ses débuts.
Puis c'est ça qui est choquant parce qu'on s'attend, ok c'est Miles, ben ça va être de la trompette. Mais en fait non, c'est le piano vraiment, le secret. Je voulais vraiment mettre au clair que mon instrument favori, c'est bien le piano. Je compose avec le piano, le saxophone, c'est venu en deuxième. C'était mon deuxième choix. Puis je voulais amener ça avec beaucoup de sincérité. Et puis chaque single, pour moi, c'est un tube dans son univers.
Smiles est un album solaire qui résume à lui seul l'univers de Joey au missile, un peu de spiritualité, quelques accidents comme moteur créatif et surtout des morceaux lumineux qui pourraient devenir immédiatement des classiques.
Donc Smile, le dernier album du jazzman Joey au missile. 13h26, restez avec nous sur France Inter. Dans les prochaines minutes, la météo de Céline Dacosta. On va voir ce que nous réserve cette fin de semaine. On parlera ensuite des piscines, parce que ça fait partie aussi des enjeux pour les communes à quelques semaines des municipales. Et en période de restrictions budgétaires, comment financer, comment rénover les piscines qui sont souvent vieillissantes et pourtant essentielles. Nous dirons nos invités, le champion olympique Alain Bernard, le sénateur Michel Savin qui demande un grand plan national. N'hésitez pas à intervenir, à témoigner. 01 45 24 7000 et l'appli Radio France. Une semaine dans leur vie nous emmène au théâtre. Cette semaine, dans les coulisses d'une comédie musicale Radio Michel. Des comédiens, mais aussi des musiciens. Et on va les entendre dans l'épisode du jour. C'est la France. Le jeudi, on passe à table avec vous. Bonjour Marie-Luce Ribaud.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Quotidien Sud-Ouest et on va parler, Marie-Luce, de l'alimentation des femmes enceintes qui est trop souvent sous les radars.
Et c'est un chef bientôt papa qui s'en étonne. Avec son challenge Pregmen lancé sur Instagram, Juan Arbelaez soutient sa compagne et toutes celles qui peinent à comprendre comment se nourrir quand leur ventre s'arrondit.
Et puis c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Céline.
Qui est à votre micro aujourd'hui?
La chanteuse Roby, qui est également réalisatrice de clips et qui vient de sortir Mantra, son nouvel album. Et avec elle, nous écouterons la voix de Daniel Darc, le morceau La taille de mon âme.
Merci à tous les deux, à tout de suite.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce dimanche, vivez en direct l'Hyper Weekend Festival.
Alina Fanoukoé.
Avec le concert-événement de Youssoupha, Amour suprême pour Balavoine, le chanteur-rappeur rend un hommage vibrant à la poésie et l'engagement de l'icône des années 80.
Et pourtant je veux vivre ou survivre sans poème. Sans blesser tous ceux que j'aime.
France Inter à l'Hyper Weekend Festival.
Avec Youssoupha, c'est ce dimanche à partir de 20h.
Chaque hiver, pour avoir bien chaud à la maison, c'est toujours le même dilemme. Soit je mets le chauffage, soit je mets un pull. Mais cette année, je vais plutôt mettre mon bleu de travail et lancer des travaux de rénovation.
Bonne idée, d'autant qu'à la Banque Postale, du 5 janvier au 1er mars 2026 inclus, nous vous réservons une offre spéciale sur toute la gamme de prêts personnels, auto, travaux ou projets.
Bon bah, il n'y a plus qu'à s'y mettre.
La Banque Postale, citoyenne.
Plus d'infos en bureau de poste et sur labanquepostale.fr. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur La Banque Postale Consumer Finance. Délai de rétractation de 14 jours calendaires. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur.
13h28, la météo.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Et c'est un ciel encore bien agité cet après-midi.
Oui, avec toujours cette perturbation, c'est celle d'hier qui s'est décalée vers l'est du pays. Perturbation pluvieuse qu'on retrouve cet après-midi entre la région PACA et la Franche-Comté, avec des averses localement encore soutenues. On a de la neige également sur les reliefs des Alpes et des Préalpes à partir de 800 mètres d'altitude. d'altitude, donc à assez basse altitude. De la neige, on en a également un petit peu sur le Massif central et sur les Pyrénées, un petit peu plus haut, 1100 mètres. Plus au nord, sur le nord-est, jusqu'au Hauts-de-France, jusqu'en Bourgogne même, on a un ciel assez couvert aujourd'hui, mais sec. Peut-être même quelques éclaircies sur le nord de l'Alsace. Et puis plus à l'ouest, là, on a le ciel de traîne qui est arrivé ce matin par les côtes atlantiques et qui est rentré un petit peu plus dans les terres avec ciel de traîne, hein, ce qui arrive après la perturbation. Mmh. Donc nuages, éclaircies, averses et de bonnes rafales de vent. Très peu d'éclaircies tout de même. Bonnes rafales de vent comprises entre 50 et 70 km à l'heure selon Météo France.
Quant aux températures, Céline, elles sont encore plutôt douces.
Oui, une moyenne de 9 à 14 degrés du nord au sud. On est à peu près dans les normales de saison pour la moitié sud du pays. Un petit peu au-dessus sur la moitié nord et c'est plus frais sur le nord-est et le centre-est. Ça ne va pas beaucoup grimper puisque la moyenne sur ce secteur ira de 3 à 9 degrés.
Merci Céline Acosta.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
Des vestiaires qui semblent un peu vieillots, des bassins qui sont bien difficiles à chauffer. Voilà souvent à quoi on se confronte quand on veut aller nager. La France compte 6300 bassins, dont un peu plus de 4000 piscines publiques. Et il serait grand temps de les rénover. C'est l'appel lancé par nos invités. À quelques semaines des élections municipales, enjeu d'aménagement local, mais aussi de santé publique. Bonjour Michel Savin. Michel Savin, est-ce que
Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous? On vous entend, député LR de l'Isère. Vous plaidez pour un plan piscine que vous allez donc nous détailler. Bonjour Alain Bernard.
Bonjour.
Vous êtes champion du monde, champion olympique et j'en passe. Et bien d'autres, vous avez co-signé l'été dernier une tribune avec un autre grand nom de la natation, Florent Manaudou, car vous dites que plus de piscines, eh bien c'est moins de noyades et qu'il faut que les enfants puissent tous apprendre à nager. C'est bien ça Alain Bernard?
Exactement, c'est une prérogative déjà de l'éducation nationale qui s'appuie sur des installations publiques qui sont gérées par les collectivités. Or, voilà, on connaît toutes et tous le contexte économique actuel, ambiant, qui n'est pas forcément au beau fixe et qui fait peser justement ces charges d'investissement et d'exploitation sur les collectivités qui ont du mal à proposer des équipements dignes de ce nom, ne serait-ce qu'en nombre pour apprendre à nager à la quasi-totalité de nos enfants avant d'entrer au collège en 6e, puisque sur certains territoires, il y a un enfant sur deux qui ne sait pas nager.
On va en reparler, hein, voilà. Des coûts, effectivement, des inégalités territoriales. D'abord, sur l'importance d'apprendre à nager, vous dites un enfant qui n'apprend pas à jouer au foot ou au tennis, bon bah c'est dommage, c'est frustrant, mais c'est pas le même enjeu de sécurité que d'apprendre à nager.
Exactement, c'est vrai qu'on peut pas risquer sa vie si on ne sait pas jouer à un sport terrestre, parce que sur la terre, on s'y entraîne tous les jours à y être, dans l'eau, pour développer ses capacités motrices, il faut s'y entraîner régulièrement. Et moi j'ai eu la chance, voilà, d'apprendre à nager dans une piscine qui faisait partie du plan des 1000 piscines. C'était une piscine tournesol à Aubagne, tout proche de chez moi, qui a changé ma vie à jamais. Donc je ne peux pas concevoir dans un pays aussi développé que le nôtre aujourd'hui, après avoir nagé 50 000 km dans ma carrière, qu'il y ait des enfants, des ados, des jeunes, des seniors qui se noient parce qu'ils ne savent pas nager. C'est pas du tout cohérent, voilà.
Est-ce que vous rejoignez ce constat, Michel Savin ?
Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai, comme vient de le rappeler Monsieur Bernard, l'augmentation du nombre de noyades constatées encore cette année, hein, est très important. Et c'est... Il faut mettre ça en lumière, en contradiction avec les politiques publiques. L'État et l'éducation nationale exigent dans leur cursus le développement du savoir nager et de l'aisance aquatique. Donc aujourd'hui, avec la difficulté de pouvoir mettre à disposition des bassins nautiques et des piscines, ça pose un vrai problème, aussi bien en termes de sécurité, mais aussi en termes d'aménagement des territoires, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, certains secteurs sont des zones blanches sur ces équipements.
C'est vrai que c'est un paradoxe, et puis c'est une inégalité territoriale. Je voyais les chiffres, un tiers des élèves qui entrent en sixième ne maîtrisent pas la compétence de nager. Est-ce que ça veut dire tout simplement, Alain Bernard, que c'est une question d'accessibilité? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres freins aussi?
En effet, il y a un enjeu d'accessibilité, il y a une question de perception. Est-ce que vous savez nager? Je vous pose la question, vous allez me dire oui, ok,
oui.
Pour vous allez bien nager, pour moi vous allez peut-être moins bien nager. L'enjeu c'est de vous sortir d'une situation compliquée. Donc entre la perception et la compétence réelle des jeunes à se sortir d'une situation dangereuse en milieu nautique, il y a encore un gap. Et en effet, aujourd'hui, ce qu'on veut dire, c'est qu'il existe des modèles qui répondent à ces besoins d'apprentissage. Il peut y avoir des apprentissages en format coup de poing sur des stages intensifs où on va faire venir des jeunes pendant une semaine faire une aisance aquatique dans lequel ils vont apprendre à se mouvoir dans l'eau. Il y a des modèles structurels d'infrastructures de piscines qui sont moins coûteuses en énergie, à l'image de, voilà, on a deux, trois modèles qui sont répartis entre la Fédération française de natation et d'autres modèles privés, où on gagne à se faire connaître pour réduire finalement le coût d'exploitation d'une piscine. Ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, le prix d'entrée d'une piscine est resté entre 3 et 5 euros, alors que son coût réel, et notamment depuis la guerre en Ukraine et le coût de la hausse de l'énergie, on est passé sur un prix d'entrée de 15 à 17 euros. Donc le delta, ce qu'on appelle le déficit d'exploitation, est amorti par la collectivité. Aujourd'hui, c'est un sport qui ne coûte pas cher finalement aux pratiquants, parce que cet effort-là financier est amorti par la collectivité. Donc je pense qu'il y a vraiment une solution à trouver pour être référencé sur des catalogues avec ces modèles de piscine, que les élus aient connaissance de ces concepts-là, qu'ils puissent l'inscrire dans un programme électoral. C'est un enjeu électoral aujourd'hui, une piscine sur un territoire, pour une intercommunalité, pour une petite commune. Et donc c'est ça que l'on souhaite défendre avec monsieur le sénateur.
Alors justement, vous parliez, Alain Bernard, des piscines tournesol, ça rappelle des souvenirs, oui, à sans doute bien des auditeurs. Quel est le constat, Michel Savin? On parle là vraiment d'un parc de piscines, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, ou en tout cas d'infrastructures qui sont globalement vieillissantes.
Ah ben oui, le constat, il est on connaît tous aujourd'hui, hein, plus de 70% des bassins datent des années 90, 50% même des années 70. Donc on voit bien que aujourd'hui il y a une urgence à avoir un grand plan national au niveau de ces bassins de piscine. Au Sénat, nous travaillons depuis pas mal de temps sur ce sujet, et il est vrai, comme vient de le rappeler Alain Bernard, il y a un travail qui doit se faire par méthodologie. Il faut d'abord avoir une programmation territoriale. Moi, ce que je propose, c'est qu'une réflexion qui soit menée à l'échelle de chaque département, avec l'Agence nationale du sport, avec l'éducation nationale, mais aussi la région et les collectivités locales, pour que les territoires carencés soient mieux ciblés pour pouvoir développer un programme d'investissement. Deuxièmement, il faut mettre autour de la table l'ensemble des financeurs. Aujourd'hui, on le sait bien, une commune seule ne peut pas financer un équipement aussi important. Donc, il faut que l'État soit à la manœuvre. C'est lui qui doit lancer ce programme qui doit être à l'échelle nationale. Ça aurait dû être même, pour moi, faire partie de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ça ne l'a pas été. Mais par contre, l'État devrait aujourd'hui lancer ses programmations et mettre autour de la table l'ensemble des collectivités, régions, départements, oui, collectivités, intercommunalités et communes, pour qu'ensemble, on puisse mobiliser les moyens sur 4, 5 ou 6 ans pour rétablir cet équilibre.
Juste pour qu'on sache de quoi on parle précisément, Michel Savin, quand vous dites que c'est un coût très important pour les communes, ça coûte combien d'avoir une piscine municipale ?
Aujourd'hui, la construction de piscines, vous pouvez aller de 4-5 millions d'euros à des piscines et des centres aquatiques qui vont plusieurs dizaines de millions d'euros. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit raisonnable vis-à-vis de la situation des collectivités face à la pénurie d'argent public. Donc, ce qui était prévu, ce qui était un peu travaillé avec Gilles Averroux, qui a été lorsqu'il était ministre, c'était d'arriver à sélectionner trois modèle type d'équipement qui puisse être réalisé dans le cadre d'un marché de conception-réalisation, avec un, comme l'a rappelé Alain Bernard, avec un engagement sur un prix de catalogue sur lesquels les collectivités, les élus pourraient s'appuyer. Et là, on sait sur quoi on s'oriente et sur quoi on s'engage. Parce qu'il y a l'investissement et puis après il y a toute la partie fonctionnement, oui, qui pèse aussi sur les collectivités.
Si je peux me permettre de réagir justement sur cet enjeu entre l'investissement et le coût d'exploitation. Aujourd'hui, enfin pour imaginer dans notre vie de tous les jours, en tant que citoyen, on achète un appartement, on achète une maison, on va faire un emprunt, on sait qu'on va payer telle mensualité pendant tant de temps. Aujourd'hui, un maire sur sa commune va faire un investissement, il va aller chercher des aides auprès du département, de la région, de l'État, de l'Agence nationale du sport, mais il ne sait pas dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, combien va lui coûter mensuellement sa piscine. Donc c'est des coûts d'exploitation qui vont des fois, comme l'a dit monsieur le sénateur, de 200-300 000 euros de déficit d'exploitation jusqu'à 1 million, 1,2 million selon la grandeur de l'équipement.
Justement, sur ce point, on va aller au standard de France Inter où nous attend Juliette. Bonjour Juliette et bienvenue.
Oui, bonjour messieurs, bonjour.
Je vous laisse poser votre question.
Ma question est toute simple, je ne connais rien au problème, mais j'aime bien les piscines. Et donc, je voulais savoir si dans les paramètres du plan envisagé, il était déjà élaboré, vous avez posé vous-même la question avant, le coût de l'opération et surtout la quantité d'eau qu'il faudrait utiliser dans la mesure où, à notre époque, le problème de l'eau
c'est une question importante
dans pas mal de domaines.
Voilà. Merci pour votre question, Juliette.
C'est une très bonne question. L'enjeu, les années à venir, on va débattre mettre autour de l'eau, l'accessibilité à l'eau. Aujourd'hui, c'est l'énergie, on s'en rend pas forcément compte, mais dans quelques années, ça va être la gestion de l'eau. Justement, sur ces nouveaux modèles de piscine qu'expliquait M. Savin tout à l'heure, sur lesquels on aimerait être référencé auprès de l'État et des collectivités, ce sont des piscines qui nécessitent moins d'eau parce qu'il y a moins de profondeur. On s'est rendu compte que d'avoir 4 ou 5 mètres de profondeur d'eau avec un plongeoir, c'est plus du tout dans l'usage. Donc il y a vraiment une évolution dans l'usage, la conception des piscines aujourd'hui, où avec 1,30 m de profondeur, on arrive à faire du développement de clubs, de l'apprentissage de natation, de l'aquagym, de l'aquabike et d'autres activités.
Est-ce que vous espériez justement, Alain Bernard, Michel Savin le disait tout à l'heure, qu'il y ait un effet JO ?
Eh bien oui, justement, lorsqu'on s'est rencontrés, on avait débattu là-dessus, enfin du moins échangé, et on s'était accordé en se disant, il y a quand même eu une publication d'un bénéfice de l'ordre de 75 millions d'euros qui a été publié au mois de juin cette année 2025, et on s'était dit, ce serait quand même politiquement parlant et d'un point de vue pratique sur le terrain, ce serait super d'utiliser cette enveloppe pour aider des projets à sortir de terre. Maintenant, voilà, je vous cache pas, je ne suis pas renseigné où était cet argent et à quoi était-il fléché.
On a raté une occasion, Michel Savin, vous le diriez comme ça?
Oui, oui, bien sûr, on a manqué cette occasion. Ce travail sur l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques aurait dû être anticipé, bien avant les compétitions qui ont eu lieu sur notre territoire. Il y aurait eu un vrai travail et ciblé. Bien sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout faire. Il faut être aussi conscient de la situation budgétaire. Mais comme le rappelle Alain Bernard, dans le sport aujourd'hui, sur les équipements sportifs, la priorité doit aller, à mes yeux, vers les piscines, parce qu'encore une fois, c'est une question de santé publique et de sécurité. Donc voilà quel est pour moi l'enjeu numéro un. Sur la question qui est posée par votre auditrice sur l'eau, il y a un dispositif qui devrait être aussi levé, qui va permettre aux collectivités d'avoir un coût un petit peu moins sur le fonctionnement des piscines. C'est l'obligation de vidange annuelle des piscines qui serait limitée aujourd'hui. Vous savez que c'est un irritant de moins pour les collectivités, donc j'espère que ce dispositif va se mettre rapidement en place pour, là aussi, faire baisser un peu la note en termes de fonctionnement et de coûts pour les collectivités.
Est-ce que ça peut passer aussi, cette rénovation, cette accessibilité, par la piste de la privatisation, Alain Bernard? On voit qu'il y a des groupes, comme Vermarine, Recrea, il y en a bien d'autres, qui pourraient peut-être remplacer les collectivités, ou en tout cas prendre en charge la gestion de piscines. Est-ce que c'est une bonne piste, ou est-ce que c'est dommage?
C'est à la fois une bonne piste, parce qu'on est un peu plus dans la réalité de l'exploitation. Comme je vous ai dit, on va payer 3 euros l'entrée d'une piscine. Si c'était un exploitant privé, vous allez payer entre 5 et 7 euros. Est-ce que c'est à l'utilisateur de payer finalement un petit peu ce déficit d'exploitation? Comme le prix n'a pas vraiment augmenté de manière conséquente depuis 40 ans, je pense qu'il y a une part d'effort à faire là-dessus. Maintenant, on demande beaucoup aux Françaises, aux Français, à nous toutes et nous tous, de faire des efforts de partout. C'est ça qui est la temporalité et pas forcément la mieux adaptée. Et puis, une collectivité va payer un exploitant privé pour s'affranchir finalement du recrutement des maîtres nageurs, parce que c'est un métier en tension. Donc, il y a quand même des sujets où ce qu'il faut savoir sur les charges d'exploitation d'une piscine, c'est que la moitié des charges est dédiée aux frais de personnel. Maîtres nageurs, agents d'entretien, agents d'accueil, etc. Donc, c'est un modèle qui doit s'inscrire parmi tant d'autres. Si un modèle parfait existait, je pense qu'on l'aurait trouvé. Malheureusement, il faut être capable de faire des compromis.
Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Vous appelez d'Annecy, c'est ça, hein ?
J'habite Annecy, qui est une commune de 135 000 habitants. Nous avons une piscine au bord du lac avec une politique qui est deux petites piscines. Nous avons toujours eu de la part des maires une politique qui était d'apprendre à nager aux enfants. Cette piscine est fermée depuis 2020, un an près, et elle ne sera pas réouverte avant 2028 parce que la nouvelle municipalité n'a pas arrêté de remodifier les projets, de revoir, de ne pas prendre de décision. Et c'est quelque chose qui est très ennuyeux pour
Annecy. Elle vous manque, visiblement, cette piscine. Merci Marie pour votre témoignage. Michel Savin, peut-être vous allez pouvoir lui répondre. C'est pas très loin de chez vous, Annecy. Je ne sais pas si vous connaissez la situation de cette piscine fermée.
Non, mais malheureusement, cette situation n'est pas... Il y a énormément de communes, de collectivités qui, au moment des arbitrages budgétaires, on fait ce choix soit de reporter les travaux qui étaient prévus sur la rénovation ou la reconstruction de piscines, soit même de prendre la décision de fermer ces équipements, parce qu'en termes de fonctionnement, ça a un certain coût sur le budget. Pour revenir sur le déficit et la question sur le privé-public, il faut qu'on fasse attention, et vous l'avez dit, on l'a dit, Alain Bernard l'a dit, une piscine, ça a un coût au niveau du fonctionnement. Aujourd'hui, la collectivité, les collectivités supportent ce coût sur le fonctionnement, mais parce qu'aussi, il y a une volonté de pouvoir rendre disponible l'accès de ces piscines à l'ensemble de nos citoyens. Demain, c'est vrai qu'avec des prix beaucoup plus importants, ça pourrait malheureusement exclure une partie de nos concitoyens, notamment les personnes qui ont des revenus les plus faibles. Je rappelle aussi que la piscine a un effet aussi important dans les périodes de forte chaleur. Tout le monde ne part pas en vacances, tout le monde ne va pas au bord de la mer, et dans certains territoires, c'est un équipement qui répond à une vraie demande.
Un dernier mot, Alain Bernard, peut-être sur l'enjeu sportif. Est-ce qu'on peut dire que plus de bassins, et des bassins où on a envie d'aller, c'est aussi des champions de demain?
Oui, bien sûr. Si on agrandit la base de la pyramide, bien sûr, on aura par effet de levier, plus de championnes et champions. Non, ce que je voulais dire, c'est au-delà de ça, dans la gestion de ces équipements privés, il y a un cahier des charges qui est fixé par la collectivité. Et donc, le développement du tissu associatif dans les petits clubs locaux est fondamental aussi. C'est-à-dire que moi, si j'avais pas appris à nager dans mon petit club de natation d'Aubagne, je n'aurais peut-être pas rejoint le Cercle des nageurs de Marseille et le Cercle des nageurs d'Antibes pour faire une carrière internationale. Donc, s'il avait fallu traverser la ville ou aller à l'autre bout du département, je n'aurais jamais eu la même vie. Donc, c'est pour ça que je m'estime à la fois légitime, engagé, responsable de cet enjeu d'apprentissage de la natation. Et avec ce marasme et ce millefeuille administratif, c'est pas évident, mais je suis plutôt, je suis plutôt têtu et j'ai envie d'aller jusqu'au bout.
N'oublions pas les piscines. On a compris que c'était l'appel qui était lancé à quelques semaines des municipales. On va voir si le débat va rebondir suite à vos demandes. Merci beaucoup, Alain Bernard, d'être venu nous voir dans le studio de France Inter, et merci à vous d'avoir participé également à cette discussion. Michel Savin, vous êtes le député Les Républicains de l'Isère. Tout de suite, le feuilleton. Je précise que Michel Savin est sénateur, bien sûr, et pas député. Il s'agissait bien sûr de le saluer correctement. Le feuilleton qui nous emmène cette semaine dans les coulisses d'une comédie musicale. Ça s'appelle Radio Michel, l'histoire d'une radio qui, en 2120, ne diffuse que des chansons d'artistes qui s'appellent Michel, de Michel Jonas à Michel Berger. Et au théâtre de la scène parisienne, pas de musique enregistrée, pas de playback. Tout est joué en live par 5 musiciens, ce qui demande beaucoup de travail. C'est ce que l'on voit dans l'épisode du jour.
Servir du soleil, quand il fait un beau, c'est la météo, radio.
Échec.
Ok, c'est vrai qu'on remet juste ça.
Alors, je m'appelle Jordan Assouline et dans Radio Michel, je suis le pianiste qui s'appelle Maurice. Et donc Maurice est là depuis le tout début de la radio et il accompagne l'ensemble des chanteurs qui viennent dans cette radio. Alors, en vérité, moi je travaille dans l'informatique, donc rien à voir. Je suis un pianiste amateur et j'aime beaucoup jouer en groupe. Et les comédies musicales, c'était pas forcément mon univers initialement. J'y étais un petit peu poussé et puis finalement j'ai adoré. Et maintenant, j'ai tendance à me projeter davantage sur d'autres projets de ce style-là. Je suis un musicien qui a tendance à jouer tout seul dans sa chambre, vraiment pour soi-même. Et c'est la toute première fois que je me produis avec autant de personnes, devant autant de personnes et en accompagnant autant de musiciens, de comédiens avec un talent fou. Donc ça m'a fait prendre conscience qu'il y a un autre univers que celui de jouer tout seul dans sa chambre. Et c'est top. C'est qu'on est tous là pour s'épauler et s'aider les uns les autres. S'il y en a un qui peut-être loupe un départ ou chose comme ça, il sait qu'il va pouvoir compter sur l'ensemble du groupe pour pouvoir le porter et faire en sorte que finalement ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas. Donc oui, beaucoup plus de stress, mais c'est du stress positif qui a tendance à nous amener à nous dépasser. Et plutôt que de jouer tout seul pour soi, cette fois-ci on joue pour les autres. Et ça rajoute beaucoup de sentiments qu'on n'a pas l'habitude d'avoir lorsqu'on joue pour soi-même.
De la musique et de la lumière, une vibration qui flotte dans l'air.
En fait, moi, à la base, j'ai fait beaucoup de piano classique toute seule dans mon coin. Et j'ai mis très longtemps avant de me décider à faire un pas pour aller voir d'autres gens. Et c'était ma première expérience en groupe et en live. Je suis Anaïs et je suis claviériste pour Radio Michel. C'était pas évident, mais en fait, dès la première note, on s'est tous tellement bien entendus musicalement parlant que du coup, ça a été magique. Et c'est ça qui a déterminé... Enfin, je suis partie de plein d'autres groupes maintenant. multiplier les expériences et c'est ça qui est super.
Moi, je suis Frédéric, je suis le batteur de Radio Michel. C'est vrai que les batteurs, on dit souvent qu'on est la basse, on fait la basse rythmique. C'est un chouette rôle d'être batteur dans cette troupe. Quand on est habitué à jouer en groupe, on n'a pas l'habitude de jouer avec des comédiens qui font de la comédie. Donc ça nous apprend à être très attentifs aux autres, à être vraiment à l'écoute des autres pour être synchro avec tout le monde en fait. Donc c'est vrai que c'est un petit challenge à relever. Je pense que ça se fait au fur et à mesure des répétitions, et puis nous on voit au fur et à mesure qu'on joue à chaque spectacle, on est à chaque fois un petit peu meilleur je pense, et on prend confiance, et le public est là, donc c'est très chouette. Ouais.
C'est du soleil.
Les gens applaudissent, les gens chantent, il y a vraiment beaucoup de retours dans la salle, c'est un spectacle vraiment vivant. Et pour nous, c'est super de voir les gens s'amuser quand on joue, ça c'est sûr.
Je m'appelle Hugo et je suis bassiste dans la troupe de Radio Michel. Pour rejoindre mon acolyte Fred, c'est une école de l'écoute, de l'attention. Et en fait, là, il faut être ultra attentif et c'est aux musiciens de s'adapter aux comédiens. Quoi. Après, c'est un travail d'aller, de retour. Mais voilà, c'est ça qui est chouette. Moi, j'ai énormément appris grâce à cette troupe. Une super expérience, quoi. Autant humaine que musicale.
À propos, j'ai pensé à cette chanteuse, Nico, qui vient de sortir un album.
Marianne.
Tu sais, on est sur radio.
Ouais, Michel.
Et ce feuilleton signé Clémentine Sabrier est à retrouver en intégralité sur l'appli Radio France.
France Inter, le 13-14.
13h50, c'est la France. Et le jeudi, c'est avec vous, Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest. Aujourd'hui, Marilus, portrait d'un futur papa très soucieux de la grossesse de sa compagne et plus particulièrement de son alimentation.
Cet homme, c'est Juan Arbeláez, ce chef colombien arrivé en France, le cœur léger et le bagage mince. Savait-il qu'il allait conquérir Paris ? Aujourd'hui, il est à la tête de 11 restaurants en France et est une superstar des réseaux sociaux. On sait quasiment tout de la vie de Juan, et notamment que dans un mois, il sera papa. Le 4 janvier, il a lancé le Pregman Challenge parce qu'il a réalisé à quel point, entre injonctions, méconnaissances, vrais interdits et idées reçues, il était périlleux pour sa compagne Cassandre Verdier de savoir comment s'alimenter.
Alors Marilus, en quoi consiste ce challenge ?
Eh bien, tous les jours, Juan Arbeláez diffuse une recette vidéo compatible avec la grossesse. Une recette qui ne se résume pas à 3 poireaux à l'eau et un blanc de poulet extra cuit. Non, l'idée est d'allier bons nutriments et plaisir. Un exemple, on sait que la charcuterie n'est pas une copine pendant cette période. Elle peut transmettre la toxoplasmose et la listériose. Mais en faisant des chips de jambon ibérico, tout risque est écarté. Et c'est un boost de protéines. Idem avec des huîtres chaudes ou des maquereaux à tartiner, préalablement mélangés avec du fromage blanc et toutes sortes d'herbes. Mais Céline, au-delà de ses tours de main et du soutien inconditionnel qu'il apporte à sa femme, Juan Arbeláez pose une question plus profonde. Notre société se soucie-t-elle vraiment de la déflagration physique et psychologique que vivent les femmes quand elles sont enceintes ? Et que peut apporter l'alimentation ?
Alors, quelle est la réponse ?
Elle vient d'Agathe Vérac, une ancienne sage-femme, cofondatrice de Holy Mama, une appli qui accompagne les mères. « J'ai eu 3 enfants, nous dit-elle, dont des jumeaux, et j'ai été atterrée du no man's land qui régnait, notamment sur ces questions autour de la nourriture. » Tout s'articule autour de 2 diktats bien ancrés. Enceinte, c'est « je ne dois pas grossir », maman, c'est « comment perdre mes kilos ». Agathe a donc suivi une formation et est devenue experte en nutrition. Elle distille des conseils précieux sous forme de modules vidéo très pratiques. Une femme enceinte, nous dit-elle, vit un tel bouleversement hormonal que cela a un impact immense sur sa santé physique et mentale. Le secret est de bien réguler ses besoins en protéines, en lipides et en glucides. Elle préconise aussi de penser à soi. On a tout entendu cette phrase « mange ça, c'est bon pour le bébé ». Or, ce qui nous fait du bien d'abord, fait aussi du bien à l'enfant. Agathe Vérac et Juan Arbeláez se sont rencontrés. Dans quelques jours, sur leurs réseaux sociaux, ils apparaîtront ensemble dans des tutos didactiques. Un long format sera aussi disponible sur YouTube.
Et il y a une recette de mousse au chocolat que vous pouvez nous décrire. Marilus, habituellement déconseillée la mousse au chocolat puisqu'elle intègre des œufs crus.
Oui, mais lui est hors l'interdit. Faites fondre 200 g de chocolat, 100% cacao, avec 150 g d'eau et 50 g de yaourt grec. Mélangez énergiquement, montez aux 3/4 200 g de blanc d'œuf pasteurisé, ça se trouve en bouteille sur internet, et finissez avec 180 g de suvi, ce substitut très innovant du sucre et qui n'a pas fini de faire parler de lui. Mélangez délicatement le tout, réservez pendant 3 heures au réfrigérateur. pour apporter du croustillant, râper quelques éclats de cacao. Alors qu'on s'inquiète de la baisse de la natalité en France, Juan et ses bons petits plats pourraient bien nous donner envie de faire des bébés.
Mais oui, pourquoi pas. Merci beaucoup Marie-Luce Ribaud du quotidien Sud-Ouest de C'est la France. Ah, c'est une chanson et c'est la chanteuse Roby que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Roby qui vient de faire paraître Mantra, un cinquième album électro-pop poétique. Et c'est de Daniel Darc qu'elle a souhaité parler.
Je suis profondément touchée de son espèce de folie et la brèche qui nous laisse voir sa vulnérabilité totale. Une des qualités défauts qui est plutôt attribuée aux femmes et qui pour moi est le fait d'une immense humanité. Et ce que j'aime par ailleurs, c'est que cette espèce de délicatesse totale et radicale, absolue, dans le chaos du monde, sa brutalité et le chaos de son âme en question.
Ça veut dire que vous l'avez beaucoup écoutée.
Je l'ai pas mal écoutée. Je l'ai jamais vue en concert, ça c'est un de mes regrets. J'aurais pu, j'aurais dû, et puis voilà, la vie a fait que.
Il est décédé assez tôt.
Oui, tout à fait. Il avait bien cramé, comme on dit, par les deux bouts. Et il avait très conscience, il avait ce memento mori en tête et dans chacune de ses chansons, très fort. Donc ça lui ressemblait, tout à fait, trouvais-je. Voilà.
Ça lui ressemblait de ne pas vieillir davantage ?
Oui, malgré le fait que, pour ma part, j'en sois revenue, que j'aime beaucoup ce t-shirt sur lequel il y a marqué en anglais « Trop tard pour mourir jeune ». Je suis passée de l'autre côté et ça me plaît assez, finalement.
Un temps, vous avez espéré mourir jeune ?
Bah, en tout cas, il y a cette espèce de fantasme adolescent. Effectivement, on se représente dandy, artiste maudit, persuadé, en tout cas, qu'on n'est pas fait pour la sagesse, ou la vieillesse, ou la vieillesse, ou la sagesse. Qu'en sais-je encore ?
Si tu savais mon cœur, rien.
Si tu savais mon cœur, rien.
Si tu savais mes yeux, rien.
Si tu savais mes yeux, rien.
Si tu savais mes mains,
si tu savais mes mains,
rien.
Rien.
Si tu savais mes reins, rien.
Si tu savais mes reins, rien. Si tu savais mes jambes,
si tu savais mes jambes, rien. Si tu savais mes bras,
si tu savais mes bras,
rien.
Rien.
Si tu savais mon ventre, rien.
Si tu savais mes fesses,
si tu savais mes fesses, rien. Mais si seulement tu savais la taille de mon âme,
mais si seulement tu savais la taille de mon âme,
si seulement tu savais la taille de mon âme, mais si seulement tu savais la taille de mon âme.
Que c'est joli, ce duo. Elle est sortie en 2011, Frédéric, cette chanson de Daniel Darc.
Chanson qui bouleverse Roby et qui s'appelle donc La taille de mon âme.
C'est vraiment une chanson qui s'adresse à l'autre, que nous sommes tous pour l'autre. Et dans ce morcellement d'abord du corps, qui peut faire penser évidemment à l'objectivation amoureuse, mais aussi au regard social. Puis après, cette liste comme ça de ce qu'est l'être humain, liste de nuit, de jour, de cris, de désir, d'espoir, de désespoir, comme de nos mouvements internes. Eh bien, toutes ces choses-là sont racontables par l'autre, mais mensongères. La seule chose qui soit véritable, quoique inexprimable, c'est l'âme. Et pourquoi la taille de notre âme ? Ça m'émeut, pardon, je tremble. Parce que trop vaste à contenir, trop lourde à porter ou à être comprise. Ça me met dans ces états, c'est très étrange.
Vous, votre âme, elle a quelle taille ?
Comme toutes celles des autres, elle n'a rien d'unique. Et elle l'est absolument. Donc infime et infini.
Si seulement tu savais la taille de mon âme.
Dans cette chanson, il y a les mots et il y a les silences. Est-ce que les silences disent autant que les mots ?
Voire plus. Il y a une forme de jeu, c'est très très ludique de dire « si tu savais mes yeux, rien ». Et puis rien. C'est pas didactique, c'est philosophique. Et c'est sublime.
La taille de mon âme.
Elle provoque quoi sur vous quand vous entendez cette chanson-là aujourd'hui ?
Eh bien, quelque chose de très profondément joyeux. Et il y a cette valse, cette rengaine de la vie qui est à la fois complètement désuète et intemporelle. Ce la 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 la. Et puis elle me rappelle à la vie.
dans le sens où, quoique étant par ailleurs extrêmement cartésienne et ne croyant pas à un après, mais qu'on est plus grand que nous, à la fois plus petit et plus grand que nous. Seul mais immense. Et en capacité à embrasser l'immensité des autres, peut-être. En tout cas, à essayer.
Si tu savais mon cœur.
Comme vous êtes belle.
Je ne suis pas belle, je suis vivante, c'est tout.
Rien.
La taille de mon âme, de Daniel Darc. C'était donc, Frédéric, le choix de la chanteuse Roby.
Roby, dont je vous conseille le dernier album. Son titre, c'est Mantra.
Merci Frédéric Pommier. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Céline Asselot.
Quel est le programme de La Terre au Carré?
On va parler de la transplantation des organes animaux sur l'humain.
A tout de suite.
Bonjour, ce serait pour faire une tartiflette.
Alors, il vous faut du reblochon de Savoie AOP, le seul, le vrai. 500 grammes de savoir-faire, de passion et d'exigence. Et c'est surtout 500 grammes de plaisir. Mais vous pouvez aussi croquer dedans, c'est trop bon. Ah, et à 50 grammes de plaisir en plus, je vous les laisse.
Évidemment.
Reblochon de Savoie, la saison du reblochon est toujours ouverte.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Pour vous, c'est une maladie du Moyen-Âge. Pour eux, c'est leur quotidien. Eux, ce sont 3 millions de malades de la lèpre à travers le monde. Souffrance, handicap, exclusion. Aujourd'hui, la lèpre déchire encore la vie d'une personne toutes les 3 minutes. Voilà pourquoi la Fondation Raoul Folraud se bat. Prévention, soins, rééducation, réinsertion. Pour nous aider dans notre combat, faites votre don ce week-end à l'occasion de la Journée mondiale des malades de la lèpre. Et ensemble, faisons de demain un monde sans lèpre. Fondation Raoul Folraud.
France Inter en vidéo. C'est quand vous voulez sur YouTube, Facebook et TikTok.
Vous écoutez France Inter et dans quelques secondes, il sera 14h.